Cube Radio.
J'ai mis des talons hauts parce que je sais que tu trouves ça un peu cochon, des jeans avec des talons hauts.
Jeans et talons hauts, ça fait la job. Moi, je trouve que ça fait la job au bout, c'est vrai.
C'est la job.
Ça fait la job. Mais oui, ça te va. Oui, wow. Écoute, on peut annuler pour rester tout seul ensemble ce soir.
OK. C'est pas devine qui vient souper ce soir, c'est devine qui vient pas souper.
Annule, je me reste comme ça, puis annule.
Mon bel amour, aujourd'hui, on fait, je pense, le 7e ou le 8e devine qui vient souper. J'adore faire ça avec toi, mais je veux te poser la question qui tue. Devine qui vient souper ce soir.
Je sais, je suis un des co-animateurs. C'est comme si tu faisais ça dans mon dos, je le savais pas. Je le sais, c'est qui.
Oui, mais on va changer le nom de l'émission. Alors, ça s'appellera plus Devine, ça s'appelle « Hey chérie, tu le sais bien, hein, qui vient souper ce soir, voyons! »
OK, Geneviève Borne et Jean Héroldi, donc on va parler Guinée.
Évidemment, Jean Héroldi, designer de mode, chroniqueur mode et tout ça, tout dans le domaine de la mode. Mais Geneviève, ancienne mannequin, et ce qui est super intéressant,
sa mère
était mannequin. Et moi, je suis sur Instagram la maman de Geneviève et aimait plein, qui est absolument superbe, qui est vraiment une splendeur. Et elle très souvent, elle met des photos d'elle de quand elle était mannequin et qu'elle portait tous les plus grands couturiers. C'est vraiment drôle. Je pense qu'on va avoir une belle soirée. La comprends-tu? Belle. Ouais, as-tu mis tes beaux souliers?
Mes beaux souliers, ils ont besoin d'être shinés, par exemple.
Oui, ça, c'est sûr.
Le bout, il est un peu usé.
Ils ont besoin d'être cirés. Mais ça, c'est des...
J'ai sorti mes beaux souliers.
Des Paul Smith. Écoute, ils sont super pointus, puis j'adore ces souliers-là, en plus. Il y a des lacets violets. C'est vrai que tu portes des souliers qui sont faits pour botter des fesses, mais tu passes ta journée à botter des fesses par écrit. Fait que là, tu pourrais vraiment botter des fesses à quelqu'un comme ça. Mais la vraie élégance du gars, là où tu vois s'il prend soin de ses affaires, si c'est un gars précautionneux, si c'est un gars propre, c'est dans ses souliers que tu les vois.
Propre!
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment... Moi, j'ai toujours été comme ça. Ça a toujours été un critère pour moi. Un gars, il faut qu'il soit bien habillé des pieds. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et quand je t'ai rencontré, c'est très drôle parce que tu portais des Doc Martens.
Oui.
Les mêmes souliers que Catherine Dorion! Mais c'était il y a 20 ans.
J'étais mince. Depuis que je suis avec toi, j'ai pris du poids, j'ai blanchi mes cheveux, esprit, je suis cerné, c'est l'enfer. J'ai tout le temps été, depuis que j'ai 14 ans, ça a tout le temps été jeans, veston, tout le temps, j'ai toujours le veston, jeans, chemise, veston.
Ah, c'est drôle parce que je suis habillée comme toi aujourd'hui, jeans, chemise, veston, c'est drôle, hein?
J'ai faim. Je sais pas, ça me stresse de recevoir des gens de la mode. Qu'est-ce que je veux dire?
Mais arrête de penser gens de la mode. Geneviève, c'est un collègue, c'est bien plus que ça. Geneviève et Jean, là, c'est pas juste ça, là. De toute façon, c'est deux personnes que j'adore. C'est ça le plus important. J'espère juste qu'ils sont pas cassés la margoulette devant la maison avec toute la glace. Hello! Hey. Oh, elle est arrivée avec des fleurs.
Salut! Ça, je lui ai apporté des fleurs.
Merci.
Apporté un peu de couleurs, de printemps, de chaleur.
Je t'en prie.
Allô! Alors, merci pour la belle invitation.
Ben, merci. Alors, on veut faire le test. C'est quoi la première chose que tu regardes chez un homme quand tu rencontres un homme? Comme là, Richard, tu le regardes, c'est quoi la première chose que tu regardes?
Ben, je trouve qu'il y a de très beaux cheveux, poivre et sel. Ça fait quand même longtemps que je le connais, que je le croise. Puis là, tu vois, je contemplais justement les tempes et le mouvement de ses cheveux.
Ah, je disais,
les filles, la première chose que vous regardez chez un gars, c'est ses maudits souliers. Vous capotez ses souliers, les filles. Es-tu comme ça, toi?
Moi, je regarde le visage d'abord.
OK, bon.
Bien. Non, je te jure, je regarde le visage d'abord, les yeux, le regard.
Si un gars n'a pas des beaux souliers, est-ce que ça te dit quoi sur ce gars-là s'il n'y a pas des beaux souliers?
Ça change, ça. Tu sais, faut pas essayer de changer les gens, mais du petit conseil au niveau des chaussures, ça se fait.
C'est ça. Alors, tu peux commencer à sortir avec un gars, parce que tu as un coup de foudre. Il porte des Doc Martens. Puis, au fur et à mesure que tu évolues avec lui, il commence à porter des souliers italiens pointus avec des lacets mauves.
On dirait que toi, tu as eu une influence.
Je sais pas. Oui, peut-être. Tu sais, c'est quoi la relation homme-femme?
Hein?
Merci. C'est vrai que c'est la première fois que je viens.
Oui. Je suis très, très, très contente d'être invitée.
Alors, Geneviève, on reçoit toujours au sushi, puis toujours avec du vin. Et là, toi, Okay. Tu prends pas de vin.
Non,
alors, on m'a dit...
thé vert.
Alors, moi, je ne bois pas de thé, mais tellement pas que je ne possédais même pas de thé hier.
C'est vrai?
Alors, pour toi, ma chérie d'amour, je suis allée acheter une théière. Juste pour toi.
Tu bois que du café?
Je bois que du café. Je hais le thé, les tisanes. Pour moi, là...
Mais comment tu peux haïr ça? C'est tellement bon.
Je déteste ça profondément. Et à tel point que pour moi, là, c'est comme tu me dirais, Sophie, va chercher une vieille chaussette dans le fond du panier de linge sale, puis fais-la tremper pendant 5 minutes dans de l'eau bouillante. C'est ça que ça goûte. Non, je trouve que ça goûte la chenoute.
Est-ce que tu t'ennuies du vin, de l'alcool, de tout ça? T'en prends plus pantoute?
Ça m'arrive encore. J'aime le rouge. Puis j'ai quelques vins préférés, mais j'ai vraiment tellement diminué ma consommation d'alcool que c'est vraiment occasionnel.
Mais c'était pour des raisons de santé à la base que t'avais arrêté de boire de l'alcool.
Oui, c'est ça. Quand j'avais été malade, j'ai décidé après que tout ce que j'allais manger, boire, tout ça, c'était quelque chose qui allait... m'apporter quelque chose.
Te faire du bien.
Me faire du bien. Donc, je me nourris. Je mange pas, je me nourris.
Wow,
tu sais, je mange des bonnes choses.
Importante.
Ben, c'est complètement différent.
Ben oui.
Parce que manger pour plus avoir faim, c'est pas grave. Là, tu prends un hot chicken avec des frites, puis ça y est. Là. Mais manger pour te nourrir, pour que chaque chose que tu manges t'apporte quelque chose. Mais c'est pas rigide. Là.
C'est pas une religion.
Mais c'est sûr que je suis très. Comme les sushis, là, vous faites mon bonheur. Là. J'aime tellement ça. Là. J'ai arrêté de boire de l'alcool au moment où je savais que j'entrais en chimio puis tout ça. Puis mon médecin, j'ai dit à un moment donné, j'ai dit « Hey, j'ai arrêté de boire de l'alcool ». Puis il m'a regardé, il m'a dit « Ben, je t'ai jamais demandé d'arrêter de boire. Là. Tu peux prendre un verre de vin, un verre de bière, comme tu veux. » Mais moi, j'ai décidé à ce moment-là de mettre toutes les chances de mon bord. C'est pour pas avoir de regrets, t'sais, pour me dire « OK, mon système va être tellement sollicité par la chimio, par la médication ». Il faut que je donne un break puis créer toutes les conditions idéales, tu sais.
Donc, j'ai mis la petite poche dans la grosse...
Tu mets d'autres choses dessus, puis c'est tout, hein? C'est pas beaucoup de
cassons. Bon, OK.
Il n'y a pas de grand rituel.
Une petite pochette, c'est suffisant pour toute ma théière?
Tu devrais peut-être en mettre deux. Peut-être que je pourrais en mettre deux. Il va être plus fort, tu sais, ça va être un petit...
Oh, un silence lousse à soir, à deux poches de thé. Deux poches de thé, oh boy!
Ouais, il va être un petit peu plus fort.
À la fin de la soirée, ça va être quelque chose.
Oui, mais attends, tu sais ce que ça fait justement, hein? Puis mes amis, ils trouvent ça drôle, mais je deviens super speedée.
Ah, c'est pas ça sonne! Avec le thé!
Oh, oui, je deviens super speedée.
Bon, allons-y, Jean et Roddy. Hey, salut! T'as pas glissé?
Ben non, pas
t'es
du
pas
tout.
T'es pas tombé?
Hey, non, moi je cours après les assureurs. Moi, j'espérais de glisser.
Ça mais c'est gentil, ça veut dire que tu nous aurais poursuivis.
Ben oui, mais c'est pas des assureurs. Non, c'est des assureurs, ça. Hé,
hey, t'es donc bien fin. Hé, hey, merci.
Ouais. OK, Jean. Là, ma blonde me dit, Jean et Roddy s'en vient. Il faut que tu mettes tes beaux souliers. Mets tes beaux souliers. Fait que là, j'ai sorti mes Paul Smith. Vraiment des beaux. Regarde les souliers qu'il y a.
Il y a des chaussures de gymnastique avec des lacets blancs.
J'ai mêlé aussi avec mes claques Gucci par-dessus pour bien paraître, mais j'ai fait comme...
T'as comme des running.
J'ai fait
non,
comme...
En plus de ça, ils portent des jeans avec un pull et une veste.
Ouais. Puis même le veston, là, j'ai failli...
T'as des running shoes.
J'ai failli arriver en culotte lousse, juste pour
j'aime ça! Les culottes lousses, là, qu'on a l'impression que les gens ont eu la diarrhée dans leurs culottes, là!
Ton genou est déjà formé,
mon Dieu,
là,
j'aurais tellement aimé ça! Retourne chez toi de changer! Hey, est-ce qu'on s'en va dans la cuisine? Parce que là, on est comme dans l'entrée, toute pognée dans l'entrée. Ah,
c'est
je trouve ça très injuste parce qu'on est là à commenter comment Richard est habillé, comment Jean est habillé, moi, comment je suis habillée. La plus élégante ce soir, c'est Geneviève, la plus flyée. Et regarde les souliers qu'elle a! Et wow. Personne n'a rien dit jusqu'ici. Fait comme on est à la radio, je vais décrire ses vêtements. Elle a un ensemble.
Ouais.
Mais ça peut être mieux que ce soit toi qui fasse la description.
Ça, j'aime ça de la manière que tu vas.
Elle a un ensemble tacheté ambre sur bleu et une chemise, c'est l'inverse. C'est bleu foncé sur kaki.
Kaki est noir.
Kaki est noir.
Et le foulard.
Et le foulard est bleu et noir, donc t'es comme tacheté.
C'est du print animal all over.
All over, et c'est sûrement griffé.
C'est ça que je me disais, moi aussi.
C'est Scotch and Soda. C'est une marque d'Amsterdam, exact.
Mais voilà. Ben, c'est pas n'importe qui pourrait porter ce que tu portes.
Non?
Non.
Ben, une petite grosse pourrait pas porter ça.
Ben, c'est même pas une question de poids, je pense, c'est une question de style.
Moi, j'aime les gens qui ont comme des uniformes. Le philosophe français, Bernard-Henri Lévy, a toujours une chemise blanche, puis il a la même chemise qui s'est fait faire comme 50 fois. Il a toujours le même veston noir, pantalon noir, sa chemise blanche avec un col très particulier. Et c'est ça. Le gars, il s'est trouvé à un moment donné son uniforme il y a 20 ans, il y a 30 ans.
Comme Karl Lagerfeld.
C'est ça, et that's it.
Vous vous souvenez de Frédéric Metz? Frédéric Metz qui nous a quittés il y a quelques années. À un moment donné, il a trouvé le tailleur qui lui faisait bien, la chemise qui lui faisait bien. Et lui, c'était un créateur, un designer, en art graphique, puis tout ça.
Un prof aussi.
Un prof, et il dirigeait l'école de design de l'UQAM, tout ça. Et il s'est dit un jour, il faut que j'arrête de penser et me préoccuper et passer du temps à choisir mes vêtements le matin. Ça prend trop d'espace dans ma tête. Ça. Fait que là, dans le fond, il n'y a personne qui remarque parce que c'est un homme. Tous les jours, à chaque fois que tu le voyais, complet, marine, chemise blanche, toujours slick, mais toujours habillé pareil. Mais il n'y a personne qui va remarquer. Alors qu'une femme...
Oui, elle va remarquer, mais tu vois...
Hey, attends, moi, si je remets ça là, la prochaine fois que vous me voyez, vous allez dire...
Oui, mais en même temps...
C'est dans 2 ans. Parce que 275 jours par année, je suis habillé avec mes jeans noirs et un t-shirt collant en V. Et c'est that's it. Quand je sors, là, j'ai pas le choix parce qu'à un moment donné, par qu'est-ce que je fais, je me force un peu plus, mais sinon...
Est-ce que toi aussi, ça prend trop d'espace pour choisir les vêtements?
Un t-shirt noir et un jeans noir, ça fait job. Veston noir.
Bon, alors moi, j'ai faim. Je sais pas vous, fait qu'on va chacun prendre une petite une assiette, un plat. Ben, tu sais, c'est des sushis parce que, je sais pas si tu sais, Jean, mais Richard et moi, on n'est pas capable de faire à manger.
Non!
Moi?
C'est pour ça, ben oui! On va aller là-bas. Moi, je prends
les
petites pizzas. Dépose ça. C'est dur d'être hot dans le milieu de la mode. Notre ami, là, Jean-Claude Poitras, maintenant, il fait des draps, il fait des assiettes, il fait des affaires. Il faut qu'il se diversifie là, parce que Jean-Claude Poitras, il était hot à un moment donné. Puis aujourd'hui, ben. On fait des rétrospectives de Jean-Claude Poitras, mais il n'est pas aussi hot qu'il était.
C'est un milieu difficile.
C'est mieux qu'il a beaucoup changé aussi. Il a beaucoup changé. À tout ce qui est apparu aussi des pays étrangers, des grosses bannières qui maintenant, un vêtement, ça ne coûte rien. Mm. On va chez Zara. La finition, à mon avis, à moi, est très belle. Moi, je m'achète des sous de chez Zara. Mm-hmm. Je vais payer 149 $.
T'es sérieux? Tu t'habilles chez Zara? Ah ouais? Ça, ton veston, c'est Zara.
C'est Zara, ça, mais le disait.
Tu n'as pas peur de le dire? Ça n'a pas l'air cheap.
Non, ça ne me dérange pas.
Non.
Zara, ils ont, pour le prix, ils ont de très, très belles affaires. Et c'est dur pour le marché local d'arriver à être en compétition. Parce que, tu sais, quand on paye ça 149 $, on peut aller payer 1 200 $ pour un veston, mais il faut vraiment qu'il soit particulier. On va me dire, oui, la laine n'est pas la même, c'est sûr. Le tissu n'est pas la même. Le fusing n'est pas la même. Mais à quelque part, quand je sors, ça fait quand même l'affaire. Fait que les milieux ont changé. Fait que Poitras, comme moi aussi, je faisais du haut de gamme avant. Un veston, je vendais 450 $ plus taxes.
Oui, mais il n'y a plus de marché pour ça au Québec. Les femmes. Et c'est intéressant parce qu'à un moment donné.
Il y a du Chanel très cher ou le plus cheap.
Si tu es un Québécois et tu as beaucoup d'argent, entre acheter un designer québécois et acheter du Karl Lagerfeld ou whatever, ben, tu vas aller dans les hautes ligues. Là.
Oui, puis souvent, même c'est difficile pour les boutiques de luxe à Montréal.
Tout à fait.
Parce que les gens qui sont très riches,
souvent vont se faire une virée shopping à Paris,
à New York,
ils vont l'acheter à Paris, le Chanel.
Ils vont l'acheter, ils vont avoir une détaxe sur leurs produits.
Mm-hmm.
En fait plus. Déjà là, ça revient beaucoup moins cher. Mais tu sais, ces boutiques-là de haute fashion, tu sais, moi je vais à Londres, à Paris deux fois par année. Puis dans les magasins, tu sais, Chanel, Louis Vuitton, il y a des rangées complètes là, d'Asiatiques qui attendent parce que d'autres, c'est vraiment moins cher. Mm-hmm. Mais il y a d'autres magasins haut de gamme. Tu dis, comment ils font pour vivre?
C'est ça, il n'y a pas
sur les Champs-Élysées. Mm-hmm. Il y a beaucoup de ces marques-là, ils font de l'argent avec leur parfum.
Mm-hmm. Ouais.
Tu sais, Thierry Mugler, là, c'est pas avec ses vêtements présentement qu'il fait de l'argent.
T'as tout à fait raison.
Ses parfums.
Il reste Jean-Paul présent.
Gaultier.
Ouais.
Jean-Paul Gaultier ne fait plus de vêtements du tout maintenant. C'est que ses parfums, qui a peut-être même déjà vendu à licence à quelqu'un d'autre. Mais
Tom Ford.
Mais il y a encore des défilés, Jean-Paul Gaultier.
Oui, mais il fait continuer à faire des
défilés. Il fait plus d'autres coutures, puis il fait plus de vêtements d'enfants. Puis moi, je suis allé voir un spectacle de lui à Berlin l'année passée, où c'était tous les costumes de Gaultier, et ça, c'était magnifique. Là. Mais il se donne plus dans le spectacle maintenant.
Oui. Je pense qu'il y a au Folie Bergère en ce moment, il y a un show Jean-Paul Gaultier.
Oui.
Mais moi, une de mes idoles au monde, c'est Tom Ford.
Ah ouais.
Et à un moment donné, il a donné une entrevue d'une heure à Charlie Rose, OK? Et je suis tellement tombé sur le cul, là. C'est un génie, ce gars-là. Il est hyper brillant. Puis il a fait deux films. Deux films sont extraordinaires.
Comme acteur, comme réalisateur.
Réalisateur.
Non, parce qu'il y a une phase d'acteur aussi, Tom Ford.
Oui.
Il y a comme acteur. Aïe, aïe.
Quel dommage.
Oh!
Ça, c'est dommage.
Mais oui, il est aux hommes.
Mais c'est ça.
Perdu, quelle perte.
Mais,
ouais.
C'est un gars hyper brillant, extrêmement talentueux. Il a fait deux films comme réalisateur et c'est deux films qui m'ont jeté à terre.
Ouais.
Vraiment sur le cul.
Man, là,
puis l'autre, Nocturnal Animals.
Ça nous écœure, les gens qui ont trop de talent comme ça, comme Bradley Cooper, qui est un comédien, qui est un chanteur, qui est un réalisateur. Tout ce qu'il fait, c'est bon.
Écoeure.
Non, mais c'est pour rigoler.
Ouais.
Parce que quelqu'un qui a tout, qui est beau, qui en plus, sa femme, c'est une mannequin
mais
russe.
C'est super.
Mais des fois, c'est des choses que, tu sais, à l'international, tu peux te permettre de faire puis de changer de place. Puis faire deux, trois métiers en même temps, puis ça passe. Contrairement ici au Québec, où c'est plus difficile. Quand t'es connu sur un angle,
ça, c'est intéressant.
C'est difficile d'aller vers un autre angle.
Ça, c'est intéressant.
Je trouve que pourtant, en ce moment, là, au Québec, plus que jamais, on permet aux gens de changer.
Mais humoriste, animateur, acteur, ça va.
Oui, ça se promène.
Mais tu sais, moi, mettons qu'il est designer.
Même les chanteurs à Nîmes.
Mettons qu'il est designer, puis moi, mon rêve, c'est de faire un show d'humour. C'est pas des humoristes, c'est de faire du stage pour faire rire les gens.
T'es sérieux?
Oui, puis je travaille
là-dessus. C'est la première fois que tu nous l'annonces ce soir.
Et puis c'est difficile, parce que c'est difficile de faire des liens. Et je sais très bien que sur un stage, pour avoir fait multiples conférences, je sais très bien que je suis drôle.
Oui.
Puis à la fin de chaque conférence, il y a tout le temps 3-4 madames qui viennent me dire « Tu devrais faire un show d'humour, on a tellement ri ce soir. » Puis j'ai plein d'idées, plein d'affaires. Mais je me dis, tu sais, des fois je me fais dire non, puis non, puis je me dis « Crème ». Faut que je le fasse. Mais c'est
moi,
pas
je
évident.
Suis convaincue que ça va marcher, Jean, parce que
t'es difficile.
T'es un communicateur extraordinaire.
Mais c'est difficile des fois, ça prend une équipe.
Faut que tu le produises toi-même.
Ça te prend une équipe avec toi. T'sais. Moi, je vais pas tout écrire mes jokes, là. T'sais, ça me prend. Mais c'est difficile aussi de te dire, toi, là, tu vas aller faire un show. Je vais pas dire un show d'humour parce qu'on dirait que je peux pas le dire. Mais j'aimerais bien ça qu'il rit beaucoup pendant le show. Mais c'est difficile de te dire, là, je vais aller. Tu sais, de t'imposer, en fait. Mm. C'est ça qui est difficile.
Mais c'est très intéressant parce que ça veut dire que t'as de la difficulté à dire le mot parce que t'as peur de l'assumer
Parce que j'ai peur que les gens... Parce qu'à un moment donné, j'en ai parlé avec un autre humoriste puis il m'a dit « Ouais, mais faut pas que tu dises que tu vas être humoriste. » J'ai fait comme « Ben là... »
comment
je monte sur une scène puis je fais rire. Ça s'appelle comment?
Ouais,
un producteur agricole?
C'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est...
Mais il y a de plus en plus de shows d'humeur.
Oui.
Tu sais, des shows... C'est comme ce que Denis Bouchard fait en ce moment, par exemple, tu sais, ou qui d'autre, tu sais.
Mais moi, j'avais refusé le Zoufès avec qui donne une salle, soir, 500 personnes.
Tu l'as refusé?
Oui.
T'as eu peur?
3 ans. J'ai pas eu peur, c'est qu'on me l'a demandé au mois d'avril et le spectacle était en juillet.
Chenoute.
Et moi, je voulais pas.
Trop rapide.
Surtout en venant du domaine d'où je viens, je voulais pas me faire assassiner sur Anne-Marie
Marie Lezic le fait, puis ça a bien marché.
Ça a très bien marché,
mais on en a parlé.
Anne-Marie l'a fait aussi.
Oui.
Ouais. Annie Brocoli.
Oui.
Ouais.
Bon, ben pour l'année prochaine, pour cet été.
Ouais, je travaille là-dessus.
Mais c'est bien.
Non, mais je sais que ça ne marchera pas pour cet été, parce qu'il y a eu des changements, en tout cas juste pour rire et tout ça, mais c'est sûr que mon but, c'était ça. Mais là, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais m'associer avec quelqu'un qui va écrire, je vais me monter comme 15 minutes que je ferai en conférence gratuitement à Alma, que j'irai faire rire le monde là-bas pour...
Tester.
Tester, c'est ça. Mais je sais que ça va marcher, mais
et
c'est
te rend vraiment à l'aise,
ouais.
Là.
Parce que moi, quand j'étais jeune, c'est pas designer que je voulais être. Moi, je voulais être humoriste.
Pour vrai? Ouais.
Mais moi, j'étais tellement gêné que je pense que c'est le chemin qui m'a permis d'arriver où est-ce que je voulais aller, c'est-à-dire à la télé, à la radio. Puis
mais qu'est-ce qui a commencé ça? Moi, j'étais très timide.
Je pense que c'est de vouloir. Je voulais tellement, mais mon doux que j'étais pourri. Je voulais tellement. Il y a même, je pense, des choses dans ma carrière que des fois, j'ai pas réussi, qui ont diminué, qu'aujourd'hui, je serais bon pour le faire.
Parce que toi, je le sais, Richard, c'était l'impro.
Moi, j'étais très timide. Et,
c'est difficile à imaginer.
J'aimais beaucoup les filles, puis j'avais
énormément... Ah, ça, énormément, c'est pas difficile à imaginer,
par la misère à les aborder.
Hey, moi, et donc, moi, j'étais très timide.
Et là, ouais, à un moment donné, j'ai pilé sur mon orgueil. J'ai fait des cours de danse pendant 2 ans. Tu sais, cha-cha-cha, triple swing, tu sais, avec un numéro dans le dos. Mais j'ai participé à des concours et tout ça.
Avec un numéro dans le dos.
J'ai fait ça au balai de 9 ans. C'est pas ce qui m'attire les filles le plus, ça.
Non, mais rien pour casser, là, pour être bien dans mon corps, savoir danser, tout ça. Puis après ça, j'ai pris des cours d'impro pour essayer d'être...
T'sais, je confirme ça, que tu es très bien dans ton corps.
Mais ça m'a cassé, mais j'étais extrêmement timide. Et ça m'a cassé, mais c'est pas évident de vaincre la timidité.
Moi, je suis encore timide, mais comme la plupart des artistes, il y a une timidité. T'sais, si j'arrive sur un stage, je suis la vedette du stage, je serais pas gêné, mais pas du tout... Mais si j'arrive dans un congrès d'avocats, puis que je connais pas grand monde, je vais être comme le...
Moi, je fais des entrevues avec toi, puis chaque fois que je te vois à la télé...
Ça. À ce temps, j'ai perdu ça,
mais il y a des contextes
début...
où on se sent bien.
Oui.
Tu sais, il y a certains contextes
où on se sent bien. Toi, t'as jamais été timide?
Ouais.
Ah, j'ai de la difficulté à t'imaginer timide.
C'est vrai?
En même temps, moi, je la vois pas comme la fille qui arrive, puis
non.
Qui
non, tu mets pas dans
le sens réservé,
ouais.
En fait.
Ouais.
Mais moi, ce que je dirais, c'est que la Geneviève que je croise... sur la rue, qui ouais. me fait des petits bisous en disant « on ira prendre un thé ensemble
ouais. »,
c'est exactement la même que je vois à la télé, que je voyais à Belle et Bomme, que je vois dans des chroniques, que je vois dans tes reportages aux quatre coins du monde. Il n'y a pas deux Geneviève. Donc, non. C'est pour ça que je dis, je te perçois pas comme
non,
timide.
Non, c'est vrai, il n'y en a pas deux,
tu mais joues pas un personnage.
Je suis plus extravertie avec mes amis. T'sais, beaucoup plus extravertie.
Mais c'est ouais. vrai que ce serait bien si on pouvait être à la télé.
Ouais. Mais il y a des gens qui y arrivent.
Ben moi, en fait, je pense que j'ai déjà eu une entrevue là-dessus qui disait qu'on avait comme deux personnalités. Puis je me rappelle parce que j'étais dans l'entrevue, puis là, il disait ça. Puis on dirait que j'ai été. On dirait que moi aussi, je pensais ça parce que j'ai comme pas réussi à dire le contraire. Tu sais. Puis qui disait qu'on avait comme deux personnes. Mais moi, je sens pas que j'ai deux personnes. Moi, je rencontre quelqu'un dans la rue. Une madame qui
m'a regardé
la télé. Je vois que la même affaire. Ouais, ouais. Je vais faire la même niaiserie.
C'est juste qu'on on a plusieurs t'sais. Facettes, en ouais. fait. On a plusieurs ouais. facettes. Puis des fois, tu sais, c'est des facettes qui se dévoilent à différents moments, dans le fond.
Mais c'est le fun de tester différentes facettes, de sortir de sa zone de confort.
Oui.
Puis quand tu dis, là, mettons, là, on est casté, tu sais. Moi, c'est certain que si j'ai un appel d'un producteur ou d'un diffuseur chez moi, tu sais, on a besoin de quelqu'un qui fait des commentaires, qui brasse la cage, tu sais, c'est genre.
Ouais.
Tu sais, là... J'aimerais sur moi peut-être faire peut-être pas un show de cuisine, parce que je suis pas bon, là, mais je sais pas, animer un quiz ou n'importe quoi, là, être sympathique ou faire une émission comme ça, mais tu sais.
Non, mais tu regardes
le casting. Ouais. Fois,
mon casting, c'est le gars qui gueule, puis tout ça, mais c'est correct. Mais c'est
moi, j'ai un souvenir de toi. Ah. Il y a, écoute, ça fait déjà 18 ans de ça ou 17 ans. Il y avait eu. Une parodie de la soirée canadienne et t'étais le raconteur.
Oui, my God!
C'était
Dieu.
Hallucinant, tu vois?
My God,
c'était drôle!
Ah, mais Richard est super
ben, oui.
drôle!
Ben oui!
Richard est hyper drôle.
Il a une bonne mémoire.
Mais oui. Ça, c'est parce que ça m'a marqué. J'ai fait comme,
tellement de bonne mémoire.
Cool, ça.
Mais c'était où?
Je pense que c'était sur TVA. Je pense que c'était le 50e anniversaire de Télémétropole TVA ou le 40e.
Il fallait que tu racontes l'histoire, tu sais, la soirée canadienne, ah ouais. le content du village.
Non, je ne sais pas parce que je n'ai pas connu ça. Moi, je suis arrivée ici en 77.
OK, mais c'est sûr que c'est vrai.
Ouais.
Puis j'avais eu du fun à faire ça. Puis,
mais tu sais,
sors de ta zone de
confort. Sortir de sa zone
de confort. Je pense que les 40 ans de TVA. God.
T'es vraiment bonne.
Il y avait eu ta controverse
ouais.
avec ton émission, parce qu'il faut raconter, rappeler que les femmes étaient dans une boîte de verre,
ouais.
les gens dans un centre d'achat disaient « Quel âge lui donnez-vous?
Hein? »
Toi, tu les amenais, tu les changeais tout, là.
Ouais.
Le grain de peau, ouais. un petit peu de chirurgie
les
plastique,
dents, les dents,
qui
faisait une job,
tu leur donnais des dents, les cheveux,
ouais.
évidemment, l'habillement. Tu leur redonnais aussi confiance en elles. Et là, tu les remettais dans la boîte et les gens leur donnaient, tu refaisais le même exercice, les gens leur donnaient 10-12 ans de moins. Et il y a eu une controverse, puis là, les gens disaient c'était écœurant, puis là, puis ça, c'était un tourbillon, c'était énorme. Là. Ouais. Et moi, je regardais
ce show-là existait en Angleterre, aux États-Unis, sans aucun...
Mais je regardais ce truc-là aller, puis les gens qui ont été les plus virulents vers toi, c'était les féministes. Puis je me disais, c'est drôle, hein, que les féministes soient rendus là, parce que dans le fond, ce qu'il fait, Jean, c'est qu'il prend des femmes qui n'ont pas confiance en elles et leur donne confiance en elles. Et je me souviens, à un moment donné, tu as donné une entrevue, tu as dit, les femmes, elles arrivent chez moi, elles ont les épaules comme ça, voûtées, puis quand elles repartent, après l'émission, elles sont fières d'elles. Je me disais, les féministes devraient applaudir à ça. Mais non, c'était le contraire.
Il y avait une grosse différence là, qui était la suivante, c'est que si la femme avait 40 ans et qu'elle avait l'air de 50 ans, je la ramenais à 40. Mais jamais j'ai pris une femme de 40 ans pour la descendre à 27. Moi, je voulais qu'elle ait l'air de son âge.
Ça, c'est une grosse différence.
Parce que si j'avais pris une femme de 50 qui va avoir l'air de 40, et là, je la descends, mais c'était pas ça le but de l'émission, c'était d'avoir l'air de ton âge. C'était pas ça. Ça, c'est une grosse différence.
Mais quand tu disais les femmes sont très critiques envers les femmes...
Oui.
Tu sais, les femmes qui achètent des magazines féminins, et les magazines féminins leur disent « Perdez du poids, maquillez-vous,
etc. » C'est pas des pubs, là.
C'est ça, les femmes veulent ça. Puis les femmes jugent les autres femmes, beaucoup. Écoute, là, on a toutes vécu ça. Dans un party, une fille arrive, puis les autres femmes la connaissent pas. La fille rentre, les filles la regardent avec un regard genre « ça, c'est une compétitrice. C'est une compétitrice, c'est qui? » Puis là, la dévisage, les pieds à la tête, puis la spot, puis tout ça. Puis tu vois toutes les filles faire...
C'est difficile. Moi, ça m'arrive même des fois que quelqu'un va dire à voix haute, une fille, tu sais, « Bon, elle s'en vient nous flasher ses belles grandes jambes, là. » Tu sais, c'est comme, « Oui, j'ai des grandes jambes. » C'est un fait. J'essaie pas d'écœurer personne. Tu comprends? Mais là, la fille qui est envieuse...
Elle se sent menacée.
Ben, ça la dérange. Puis, il y a celles qui vont dire tout bas, puis celles qui vont avoir une attitude, puis je te le jure, ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé, là, d'arriver dans une soirée, puis qu'une fille...
Donc, tu
connue,
te sens plus jugée.
Me disent, elle s'en vient, vient nous écœurer avec ses belles grandes jambes.
Viens, donne-nous des noms.
Non,
juste des initiales.
Mais tu sens, tu te sens plus jugé par les femmes que par les gars finalement.
Oui, puis souvent quand les filles se maquillent, s'arrangent, sont très coquettes, tout ça, il y a le côté qu'elles veulent plaire aux hommes, mais c'est aussi appartenir au groupe, montrer ce qu'elles ont acheté. C'est des discussions entre filles.
Tout à fait.
Tu sais comme moi les grandes marques, tu sais comme j'ai jamais payé cher pour un sac à main ou un truc. T'sais, si j'ai 5 000 $, je vais pas m'acheter un sac à main luxueux.
Tu vas partir en voyage.
Je vais partir en voyage. Mais il y a des filles qui ont des sous puis qui s'achètent ces choses-là ou même qui vont s'endetter et mettre ça sur des cartes de crédit parce qu'elles veulent avoir des marques. Mais ça, c'est pas pour les gars parce que le gars, il ferait pas la différence. Il connaîtra pas nécessairement ça. C'est plus pour, regarde, j'ai le nouveau Prada.
Ouais.
Ah oui, ben moi, j'ai le nouveau Gucci. Ah ouais. Ouais, moi aussi, je pense que je vais aller le chercher. Là.
Ah ouais.
C'est entre elles, souvent.
Ouais, c'est une compétition.
Comment ça fonctionne, le milieu de la mode? OK, je vous pose une question. Ouais. C'est-tu comme la mafia? Ils se réunissent, mettons, en disant, là, ça va être le jaune.
Ben,
puis ça va être, là, ça va être des sacs en osier rose.
Ouais, ouais.
C'est correct. Là, ils partent tous puis ils font ça. Là. C'est-tu,
y a-tu
un moment
donné? Il y a des tendances qui sont déterminées.
Ils sont déterminés.
Moi, je pense que
v'là 20 ans... Ça vient de la rue aussi.
Ouais, mais v'là 20 ans, t'avais des designers qui étaient beaucoup plus différents l'un de l'autre. Mm-hmm. Et tu pouvais reconnaître un Chanel, tu pouvais reconnaître un Versace, tu pouvais reconnaître un Gucci. Aujourd'hui, t'es un petit peu mélangé. Et parce que moi, je trouve que la mode, vraiment... Ce sera pas bon pour mon métier, mais je trouve que la mode n'est plus à la mode. Je pense qu'on a moins de choses à dire. Mm. Les gens peuvent s'habiller un peu comme elles veulent, mais autant que c'est beau sur eux, tu peux porter du jaune, du orange, ça va être correct. Tu as un comité, pour répondre à ta question, tu as un comité.
Il y en a-tu un comité?
La première vision qui est un show de tissus, pour commencer. Donc, les tissus sortent un an d'avance. Eux, ils ont un comité de je sais pas combien de personnes qui vont dire, bon, cette année, on propose ces couleurs-là. Sincèrement, aujourd'hui, les couleurs qu'ils proposent, il y en a 200. Fait que là, j'en
ai. Non, mais avant, OK.
Mais il y a des tendances.
Avant, il disait, mettons, là, ça va être le mauve.
Ouais.
Puis là, c'était tout à coup, toutes les autres faisaient du mauve.
Est-ce que tu sais, ouais, c'est quoi la couleur Pantone de cette année?
Oui.
Pantone.
Ah, OK, Pantone.
Chaque année, Pantone, ouais, mais ça dit la couleur de l'année. Ouais. Est-ce que tu sais c'est laquelle
c'est quoi,
cette année?
Pantone,
c'est Pantone, ben tu sais, c'est tout
de la peinture.
C'est comme une bible.
Non,
de...
c'est la bible des couleurs. Moi, quand je vais faire mes vêtements, okay, j'envoie la couleur en Chine, ils savent si le 24-65 Pantone, ça va être exactement
c'est cette couleur. C'est des échantillons de couleurs.
C'est une bible, ouais,
catalogue
une bible
de couleurs.
Officielle, si tu veux,
c'est la mafia des couleurs. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont dit cette année?
Et eux-mêmes, chaque année, décident de mettre le
focus
sur une couleur.
Ça va être quoi?
Et ils choisissent ça, et donc ça a des répercussions aussi sur la mode, les tendances, même en décoration, même en dans les vêtements, les peintures que tu, la peinture que tu vas mettre sur tes murs, etc. Alors cette année, c'est Living Coral, corail vivant. Alors c'est un corail.
Oh, s'il vous plaît.
Non, déjà c'est une couleur qui pogne au bout de ça.
Ça pogne au bout.
C'est quoi corail? C'est comme.
C'est comme un corail.
C'est rose orangé.
Non mais
rose,
c'est comme pêche. Tu sais, à un moment donné, on mettait tout du pêche sur les murs. Ouais.
Non, c'est pas plus, beige, c'est, plus c'est plus.
Bon, il y a eu des années que c'était pêche et un turquoise. Là. Il y a deux couleurs.
Oui, mais moi, j'imagine comment ça s'appelle, Pantone.
Living Coral.
Écoute-moi.
Oui, c'est le 16, on me fait signe que c'est le
Pantone.
16, ah oui, c'est ça, c'est 16, 15, 46, ah, Living Coral.
C'est laid.
Non, moi, c'est une belle couleur.
Non, mais c'est vrai que c'est vrai comme un corail.
C'est une belle couleur.
Mais moi, ce que je comprends pas, Geneviève, je vais te poser la question parce que j'ai pas la réponse, mais ils nous annoncent ça au mois de novembre que c'est Living Coral.
Ouais.
Mais l'industrie, là...
Est déjà faite.
La manière que ça se passe, c'est qu'ils disent c'est Living Coral et là, ils ramassent sur le marché tout ce qui est corail, ils mettent ça dans un document pour nous pousser cette couleur-là, puis ils nous font croire que cette couleur-là va se vendre à 23% de plus que les autres couleurs.
Ouais.
Il y a quelque chose là-dedans qui...
Mais moi, je trouve ridicule.
Que Pantone, les gens de Pantone, ils sont 10, ils se réunissent, ils sont sous comme une botte, mais ils disent... Là, ils ont plein de couleurs devant eux, puis ils se ferment les yeux, puis ils disent oh, « on va en choisir une ». Ils disent « tabarnak, boum, ça va être celle-là ».
Non.
« Living Color », ouais. Tu disais, les femmes sont parfois les pires critiques, OK? Bon, alors, il y a des femmes qui disaient, je connais une fille qui travaillait dans un magazine féminin. Je la nommerai pas, mais elle était rédactrice en chef d'un magazine féminin.
Mm-hmm.
Elle recevait plein de courriels. On veut des grosses en page couverture, on veut des grosses, on veut des grosses, on veut des grosses, il n'y a pas assez de grosses.
Mm-hmm.
Elle a mis une grosse en page couverture, c'est le numéro que c'est le moins vendu de toute l'histoire du magazine. Sais-tu pourquoi? Parce que les femmes veulent rêver. Les femmes ne veulent pas voir une grosse en page couverture. J'ai rien contre les grosses. Il y en a qui sont belles, magnifiques, sexées, puis tout ça. Puis bon, aucun problème. Mais les femmes veulent rêver. Comme moi, ça me tente pas de voir un gars avec une bédaine. Puis tout ça. C'est moi, Chris. Ça me tente pas de me voir
c'est
moi.
C'est comme toi, si tu achètes des baguettes Calvin Klein, puis que le gars, ça la boîte, il a le même bide que toi.
Il a le body que moi, là.
Ça te tente moins.
Non, fait que quand le gars, là, il a un six-pack, puis j'achète les bobettes Calvin Klein, j'ai beau être hyper brillant, et intelligent et critique, j'ai l'impression que c'est
ben
moi.
Ouais. Mais c'est ça, c'est ça.
Moi, quand j'étais jeune, je faisais des photos de Bombardier, les vêtements de motoneige. Mais comme une petite agence à Sherbrooke de mannequin.
T'étais mannequin?
Ouais, mais
j'étais
gros comme une allumette avec des oreilles. Mais
Une allumette avec des oreilles.
Mais l'année d'après, ils ont pris des gens qui étaient à l'image de ceux qui font la motoneige. Et leur vente a été plus basse que jamais.
C'est vrai.
Parce que celui qui a une bédaine pour la motoneige, il veut pas voir. C'est ça.
Ah ouais, pourtant, on aurait pu penser qu'il y aurait eu un sentiment d'identification. Non,
c'est la
fort.
Même chose quand mais j'achète mes bobettes. Je veux pas voir le gars sans boîte avec une bédaine.
La mode, c'est du rêve. Fait que les grosses, ils ont vu des grosses, on veut des grosses. Les grosses ne veulent pas voir des grosses. Parce que les grosses, quand elles voient des minces, quand les grosses voient des minces, elles disent « Ah, ça, c'est moi », puis elles se voient minces.
Mais je te dirais
que ceux qui sont bien enveloppés, souvent, sont moins complexés que la petite qui habille du 4 ans puis qui veut paraître d'avoir l'air du 2 ans. Moi, pour faire du magasinage, là, les femmes enveloppées, souvent, sont fières de trouver quelque chose pour s'améliorer, mais ils sont plus faciles à s'accepter.
Ouais. Mais je te dirais, tu as tout à fait raison, Geneviève disait tout à l'heure que les choses ont énormément changé. Maintenant, il y a beaucoup plus de diversité corporelle, etc., etc. Mais tu sais, je regarde une fille comme Ashley Graham, puis là, les gens disent, ah, c'est le symbole de la...
Ouais. Mais cette fille-là...
Elle est belle en
qui? Elle est belle en
visage.
Elle est
belle
en tellement beau. Elle est aussi belle que Cindy Crawford.
Ouais, mais non, Ashley, ta rapetisse, là, mettons, proportionnellement, ta descend à 5 pieds 6, 5 pieds 5, c'est pas une taille si forte que ça.
Puis Ashley, ce qu'Ashley Graham, ce que ça dit, c'est que si t'es grosse, t'as vraiment intérêt à être crissement belle.
Ah. Oui.
Parce que la grosse LED, là, on s'en fout totalement. Tu sais, fait que c'est encore la dictature de la beauté. Geneviève, justement, t'es une bonne personne, t'es gentille et t'as eu le cancer.
What?
Fait que là, tu dis, fuck! Pourquoi moi?
Ah non!
Tu sais, c'est comme, je suis super gentille, je suis super fine.
Ça, mais la vie là, t'a envoyé deux coups de cochon. Mais
chum est mort la même année.
La même année, ton chum est mort, t'as eu le cancer, alors que t'es, de tous les gens que je connais sur Terre, peut-être la personne qui émane le plus de...
gentillesse.
Mais tu l'as dit, t'es zen, t'es
tu comprends rien de ça,
maman. Douceur, gentillesse.
Il n'y a pas de logique.
Non, mais est-ce que tu dis, maudit que la vie est injuste envers moi?
Pourquoi moi?
Moi, je pense que on a tous nos difficultés. On va tous vivre avec la maladie.
Un moment ou un autre.
La gravité peut varier, là, mais puis on va tous être confrontés au décès de gens qu'on aime. Ça m'est arrivé, c'était l'année de mes 40 ans. Ça fait 10 ans, là. J'ai eu 50 ans, là, je viens d'avoir 50. Fait que c'était l'année de mes 40 ans. Puis là, je perds mon amoureux. Puis quelques mois plus tard, j'ai un diagnostic de cancer. J'ai passé un an en chimio, en radiothérapie. Comme un an à l'hôpital, là, tu sais. Ça devient quasiment ta job à temps plein.
Ouais.
Puis c'est tellement dur, là, tu sais, que moi, je me dis tout le temps, c'est trop pour mes petites épaules. Ouais. C'est trop en même temps, là, tu sais. Puis...
Mais justement, t'es tellement gentil, t'es tellement fine, tu te dis pourquoi moi?
Oui, mais la vie,
là, tu vois les salauds qui ont du fun. As-tu pensé que t'allais mourir?
Non.
Jamais.
T'as jamais dit, fuck, je vais mourir.
Non, pas une seconde.
Mais est-ce que ta mère pensait que t'allais mourir?
Non, personne n'a pensé que j'allais mourir. Non.
Je pense pas qu'il y a des gens qui ont pensé, mais ils te l'ont pas dit. Ils ont eu peur, non?
Ben, ça fait peur, ces choses-là, c'est sûr. Moi, je me suis dit, OK, ben, je vais faire tout ce qu'il faut pour passer à travers, puis je vais être correct. J'étais sûre que je passerais à travers. J'étais
certaine. Parce que tu fais partie de l'équipe, comme moi, que tu vois la moitié du verre plein, non pas la moitié du verre
exact.
Dans la vie.
Exact.
Ouais. Ça devait pas être comme tout... ça tous les jours, Geneviève. C'était impossible.
Non, ça a été extrêmement difficile. Ouais. Extrêmement difficile, mais je savais que j'allais passer à travers, j'étais certaine.
Tes amis, as-tu perdu des amis?
As-tu vu
entre les bons amis et les moins bons amis là-dedans, ça t'a fait un...
Oui, mais ça m'a fait comprendre aussi quelque chose, c'est que chacun a ses limites, hein, puis il y a des gens qui sont très à l'aise avec la maladie, il y a des gens qui sont très mal à l'aise dans ce contexte-là, puis moi, j'avais des amis qui venaient avec moi en chimio. J'avais une chimio par semaine, tu sais. Puis, curieusement, je trouvais facilement quelqu'un pour m'accompagner parce que tu peux pas conduire parce que t'es complètement buzzé après.
Absolument.
Là, puis, mes copines venaient, tu sais, puis il y avait une rotation. Puis, c'était comme, OK, là, c'est à mon tour. Puis, j'ai trouvé les gens tellement adorables,
fois,
tellement
dur.
Sweet, là. Il y a des gens, tu sais, j'avais comme mon cercle d'amis proches qui s'est rapproché. Puis là, une espèce de cercle de connaissances qui s'est rapproché encore plus.
Mais
c'est de comprendre les limites de chacun parce que j'ai des amis qui ne faisaient que m'appeler, ce qui est déjà gentil et super, mais qui ne voulaient pas me voir. Parce qu'ils avaient comme peur de me voir.
Je ne faisais pas pitié.
J'avais pas l'air trop malade, mais j'ai des amis même de longue date là, qui étaient mal à l'aise. Je veux pas te voir comme ça, mais qui m'appelaient puis qui m'encourageaient. Puis des gens que je connaissais un petit peu moins qui étaient comme, je suis là, je m'en viens te chercher, je te mène à l'hôpital, on va faire la chimio.
Mais ce qui est intéressant, c'est que t'es capable de faire la différence entre, c'est pas parce que toi t'es pas venu me voir et que toi t'es venu me voir, que toi tu m'aimes plus et que toi tu m'aimes moins.
Non.
Et j'adore ta formulation, on a chacun nos limites.
C'est ça. Ce que j'allais dire qui est important aussi, un bon exemple aussi des limites des gens, quand j'ai perdu mon amoureux, quand Michel est décédé, tu sais, bon, j'ai eu beaucoup de réconfort puis de présence des amis puis tout ça,
Mais j'ai un très bon ami qui ne m'a pas appelé, qui n'est pas venu me voir suite à ce drame-là. Comme pas de nouvelles, pas entendu parler, rien. Puis je me disais, coudonc, c'est curieux. Puis, quelques mois après, quand j'ai eu mon diagnostic de cancer, ce même ami-là, tout de suite, il appelle. Qu'est-ce que je peux faire? Je connais une madame qui est passée par là, puis là, elle connaît telle affaire, je peux t'aider, je peux faire telle affaire, j'aimerais ça t'offrir, je sais pas, moi j'invente, là, veux-tu aller dans un spa, moi puis ma blonde, on aimerait ça venir te voir, puis là, j'étais là, et là, j'y ai carrément demandé, j'ai dit, écoute, j'ai dit, je te trouve super présent, puis il m'appelait toutes les semaines, prenait de mes nouvelles, tu sais, puis ah, moi puis ma blonde, on aimerait ça aller te porter de la bouffe, ou tu sais. J'ai là, OK, je trouve ça super gentil, puis t'es super présent, t'appelles à toutes les semaines. Pourquoi quand Michel est décédé, j'ai même pas entendu parler de toi? Et ce gars-là, en plus, c'est comme le premier qui m'a vu avec Michel, qui a été témoin du début de notre relation, puis tout ça. Puis il dit, je n'avais pas de mots. Je trouvais ça tellement triste.
Oui. Je savais pas quoi dire.
Des mots. Je trouvais ça tellement triste. Puis, il disait, je trouvais ça tellement... Il dit, je vous trouvais tellement beau ensemble. Puis, il dit, c'est comme... Il dit, ça m'a dépassé. Je ne savais pas quoi dire. Je n'avais pas de mots. Puis, il dit, là, je suis outillée parce que j'ai connu des gens autour de moi qui ont eu un cancer. J'ai déjà aidé des gens, ma blonde aussi. Là. Il dit, là, je me sens outillée. J'ai pas peur d'être là et de t'aider. Je suis désolée. Si l'autre fois, je pouvais pas être là, mais je n'avais pas de mots.
Mais tu étais bonne de poser la question parce que ça peut faire un conflit aussi sans explication.
Mais
sans,
il fallait que tu une guerre sans raison. Ouais.
Je vais poser une question qui a l'air bizarre.
Ouais.
Si ça te tente pas de répondre, réponds pas.
OK.
Quand tu es, je sais pas, après un certain temps, tu retombes en amour.
Avec qui?
Ou tu revois quelqu'un, je ne sais pas, est-ce que tu te sens...
Est-ce que
tu
es retombée en amour depuis Michel?
Est-ce que tu as trompé? Non,
c'est ça.
OK, excuse-moi.
Mais non, je le savais, moi. Non.
Oui, mais j'ai toujours été comme ça, en fait. Je ne tombe pas amoureuse souvent. Moi, c'est comme si mon statut normal, c'est d'être célibataire. Tu sais, souvent, les gens, là... OK, je généralise, mais j'ai l'impression que souvent, les gens, tu sais, mettons, si la vie est comme une ligne comme ça, là, les gens sont en couple, là, ça casse. Ah non, faut que je me trouve quelqu'un. C'est un peu comme, j'ai une job. Ah, j'ai perdu ma job. Oups. Faut que je me retrouve une job. OK, je suis back on track. Je me suis retrouvé une job ou je me suis retrouvé un chum ou une blonde ou whatever.
Ça, c'est le contraire.
De retour sur la ligne normale. Ouais. Moi, mon statut normal, c'est d'être célibataire. Je suis bien comme ça. Je sais pas, je suis libre. On dirait que je fonctionne mieux comme ça, qu'en duo. Ouais.
Toi, ce qui est spécial, c'est d'être en amour puis d'être en couple.
C'est l'anomalie. Tu sais, comme l'anomalie. Souvent, dans la vie des gens, l'anomalie, c'est « shit, j'ai perdu ma job » ou « shit, je suis célibataire, mais ça va se replacer, là. » Ah, OK, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est
mais
genre...
ce qui veut dire
ah non,
que...
mais le pire, là, c'est que quand je tombe en amour, là, ça m'arrive quand même des fois, là, c'est comme « ah non, c'est pas vrai. Je suis quasiment fâchée, là.
C'est drôle, parce que moi, je vis la même affaire.
Parce que là, il y a tout le... J'aime pas avoir un fil à la patte, on dirait. Tu sais, c'est comme, je sais pas si je vais rentrer souper.
C'est drôle parce que mon frère et moi, ça fait 17 ans qu'on est ensemble.
Très drôle.
On adore la routine, mais c'est très drôle. Et toi, Jean, t'es comme ça?
Non, mais moi, depuis que je suis séparée, c'est la même chose. Moi, je suis jamais retombée en amour.
Non?
J'ai eu quelques relations, mais je suis bien tout seul. Puis en même temps, je sais pas, je suis prêt à retomber en amour.
Tu t'es séparé, toi? J'en ai pas en tout entendu
parler.
Ben
non, c'est ça, je me disais. Mais tu sais, de retomber en amour, moi, je suis pas quelqu'un qui tombe en amour en tournant le coin, là.
Non, mais il y en a qui tombent en amour facilement, mais qui veulent tellement pas être seuls.
En fait, ça, on appelle ça de la dépendance affective.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, juste dire comme, il est cute, il est fin, je vais sortir avec, c'est comme, non, je vais me sentir pognée.
Puis, sais-tu que si t'avais des enfants, c'est encore pire.
Ah, ça doit.
Mais, quelqu'un est bon. On t'ouvre la porte, là. On aime ça quand les journaux à potins parlent de nous en bien, puis c'est le fun, puis tout ça.
Non, toi,
mais quand ils parlent de nous en, en mal.
Ouais.
Quand soudainement, parce que moi, je me suis séparé de la mère de mes deux filles.
Ouais.
Pour être avec Sophie, puis ça fait la page 2 du Journal de Montréal.
Ouais.
Et là, soudainement, tu dis, oh fuck.
Quand t'as laissé l'autre ou quand t'as pas.
Quand je l'ai.
Les deux sont passés en même temps.
Okay. Quand j'ai laissé l'autre. Et je me disais, c'est déjà assez difficile à vivre ça avec deux enfants.
Très
que
jeune.
Ça devienne soudainement public, c'est encore crissement plus tough, là.
Ouais.
Et plus difficile. De voir votre vie privée soudainement dans des journaux de même, vous trouvez ça comment?
Ben, moi, je suis sûre que Jean va avoir quelque chose de très important à dire parce qu'il a vraiment vécu la totale. Mais moi, j'ai jamais parlé de ma vie privée dans les journaux.
Donc, t'as réglé le problème.
Quand Michel est décédé, c'est comme ça que les gens ont su que j'avais un chum.
C'est vrai?
Hein? Ben oui.
Tu sais, j'avais rencontré ton chum une couple de fois et c'était un gars extraordinaire.
Oui,
c'était un gars extraordinaire, tellement gentil.
Tu sais, puis je cherche pas Michel numéro 2, là, mais tu sais, la barre est haute.
C'est sûr que
la barre est haute. C'est comme... Et sérieusement, j'ai jamais... les gens ont su à la fois, en même temps que j'avais un amoureux et qu'il était décédé.
C'est vrai.
J'en ai jamais parlé.
Et parce que, mais c'était une volonté de ta part.
Oui, c'est de protéger ça. C'est ma vie privée. Puis, c'est pas parce que j'avais honte, hein. Il était super beau, super intelligent, super charmant, tout, là, tu sais. Au contraire, tu sais, j'aurais pu le show et off, là.
Non, tu comprends?
Il faisait du milieu, ou non?
Oui, il était producteur de disques.
Okay. Okay.
Il était vice-président de la disque. Okay. C'était le manager des bébés.
OK.
Autrefois, après ça, il s'est occupé de Sylvain Cossette, tout le projet 70s.
Tout, il était beau, il était brillant.
Tout, le raffiné, élégant.
Tu t'ennuies de lui encore?
Ben oui, c'est sûr. Et heureusement, avec le temps, ça fait moins mal, là. Tu sais, ça fade out, là, heureusement, là.
Ça fade out?
Ça fade out complètement.
Écoute, on va parler de ton truc tantôt. Je ferai une parenthèse. Eric Clapton.
Oui.
Son jeune enfant, son petit bébé
est mort.
Il était dans une chambre d'hôtel, comme au 26e étage, puis son jeune enfant, et la fenêtre est ouverte, puis il est tombé.
Tombé en bas.
La chanson de...
Tears in Heaven.
Et Eric Clapton disait, au début, il pouvait pas la chanter, il pleurait tout le temps.
C'est sûr.
Puis il dit, maintenant, c'est une toune comme une autre.
Ouais.
Maintenant, c'est une toune comme une autre. Je chante cette toune-là comme je chante n'importe quelle de mes autres tounes. Je chante cocaïne, je chante...
Quand j'ai lu ça...
Ça m'a choqué un peu. Je me disais, ta maman, tu as écrit ça sur ton enfant qui est mort. Puis il dit, avec le temps, la peine s'atténue. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai, mais c'est vrai.
Des fois, c'est long.
Ça peut prendre du temps.
Mais ça s'atténue, mais ça disparaît pas.
Non, ça disparaît pas. Puis quand je vois encore... des fois, je vois quelqu'un, un gars qui a une silhouette comme Michel ou qui porte le genre de chandail qu'il portait tout le temps, là, puis le cœur me fait trop autour, là, c'est sûr. Mais ce qui se passe, c'est que si je faisais une comparaison cinématographique, quand tu vois une image au cinéma ou à la télé, là, puis là, le focus est sur un objet ou un personnage en premier plan et derrière, c'est flou. Puis à un moment donné... Tu peux faire un switch. Tu peux faire en sorte que le personnage au premier plan devienne flou et qu'est-ce qu'il y a derrière devienne au focus. Puis, ce qui est arrivé, c'est que Michel est décédé. Puis là, j'étais complètement à terre et tellement... Il n'y a pas de mots, en fait. C'est épouvantable. C'est tellement triste puis dramatique... Que t'as l'impression, en fait, que tu t'en sortiras jamais, que tu te remettras jamais de ça, tu sais. Puis là, 6 mois après, imagine, j'ai un diagnostic de cancer.
Tu n'avais pas encore fait le deuil, vraiment?
Ben non.
Après
Alors,
6 mois.
Alors, ce que ça a fait, c'est que là, tu sais, Michel, qui prenait toute la place dans ma tête tout le temps, il a fallu qu'il se retrouve en arrière-plan.
Oui.
Puis là, c'était la maladie, puis la guérison.
Qui était au premier plan.
Qui est au premier plan, OK? Puis là, j'ai focussé là-dessus. Fait que j'ai comme mis mon deuil de côté. Parce qu'il fallait que je m'occupe de moi, il fallait que je trouve ma peau, tu sais. C'est une espèce de valse avec la mort, mais à un moment donné, c'est comme, OK, là, je m'occupe de moi.
C'était l'image communicante,
je
pouvais
pas à ça, mais c'est ça. Puis là, je me suis dit, OK, là, faut que je focus là-dessus. Fait que là, mon deuil est arrivé au second plan. Et quand j'ai les résultats, que j'étais guérie, que ça allait bien marcher, la chimio a marché, je suis guérie, là, je saute de joie. Là, il y a comme un moment de grâce, puis après ça, ça a fait tchou. Puis là, le deuil m'est revenu en pleine face. Et ça a été épouvantable.
Ah oui, pire la deuxième fois.
Aussi, au moment aussi pire. Aussi pire. Aussi pire. C'est comme si c'était un on et off. Ça.
Fun.
Ouais, ouais, ouais. Et là, après ça, ça a pris une couple d'années.
Mais c'est quoi, t'es fait forte en
tabarnouche. Mais c'est quoi, si tu dis une couple d'années? Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 2 ans. Il est mort d'un accident automobile. Ma mère, ça a pris 25 ans avant qu'elle nous dise, OK, je peux vous rencontrer maintenant au restaurant. Vous pourrez me poser les questions que vous voulez. Maintenant, je suis passé à autre chose. Ça a pris 25 ans.
Avant qu'elle s'en remette.
Parce que quand on était jeune, on lui posait des questions sur notre père. Ça le faisait pleurer tout le temps. Mmh. On arrivait dans la belle famille, puis nous passait des photos pour qu'on oublie notre père.
Mais pendant 25 ans, elle n'a jamais eu un autre chum?
Oui, elle a eu un chum peut-être 6-7 ans après.
Oui, parce que tu as parlé de ton beau-père
tout à l'heure. Oui, 6-7 ans après. Mais quand même, elle ne l'avait pas oublié. Puis en fait, ma mère lui en voulait, ce que j'ai compris. Mmh. Parce que moi, quand j'étais jeune, je pense que pour me permettre de passer ça plus facilement, j'avais entendu que c'était des gars en état d'ébriété qui avaient dépassé puis qui avaient poigné mon père avec cette décapotable. Fait que c'était pas de sa faute à lui. Mais quand ma mère était décédée, j'ai fouillé dans une petite boîte bleue chez nous. Non. Puis j'ai poigné les rapports du coroner. Et les rapports du coroner disaient que mon père, par un 28 décembre, par une tempête, avait dépassé. Et en dépassant, il s'est fait ramasser par un camion avec sa décapotable.
Donc, c'est sa faute à lui.
C'est pour ça, c'est sa faute à lui.
Et là, donc, comment ma mère, t'as réagi en lisant ça?
Oh ben, tu sais, ça faisait
comme, en train de lire ça.
Écoute, ça fait, là, ça fait 50 ans qu'il est mort, mon père. Mais là, ça faisait comme 40 ans qu'il était mort. Je le connais pas vraiment. Mais j'ai tout compris l'histoire, tu sais, que ma mère, elle en avait toujours voulu.
Elle avait de la colère.
Ouais, elle avait de la colère contre lui parce qu'elle se disait, pourquoi il m'a laissé ici avec 4 enfants. Avec pas une scène. Pourquoi il a fait ça?
Parce
que mon père était professeur d'école, ma mère était femme à la maison. Fait qu'elle, elle l'a rushé toutes ces années-là. Mais ça y a pris 25 ans pour qu'elle soit capable d'en parler.
Mais elle a même pas dit la vérité à ses enfants.
Quand elle était jeune, non. Pour nous protéger, je pense.
C'est ça.
T'sais, elle a pas dit, ben, votre père a, tu sais, moi, tout le monde que je rencontrais, il me disait, t'es le fils à Paul Héroldi? Je disais, oui. Ton père, il allait vite, faisait des vitesses. Il a tué mon chat quand il était jeune. Avec la vitesse, tout le temps. C'est tout le temps ça que j'ai entendu, tu sais, mais c'est drôle.
Donc, ça marchait pas. Ce que les gens disaient à propos de ton père, ça correspondait pas avec ce que ta mère t'avait
non,
dit.
Non, mais quand j'ai lu le papier, j'ai fait comme...
Là, ça a fait du sens.
Là, je comprends pourquoi ma mère...
Comme si c'est fou, puis on finit toujours par connaître la vérité.
Ouais, il y a pas une famille québécoise où il y a pas un secret de famille.
Ah, il y a toujours
des... Et à un moment donné, ça finit par éclater. Je dis ça, une famille québécoise, une famille de Nouvelle-Zélande ou du Zimbabwe.
Mais ben, dis-tu quoi, moi, je réalisais à mon choix quel âge me donnez-vous que tout le monde avait leur histoire. Ouais. Peu importe la femme que je rencontre, il y avait toute une histoire et assez intéressante.
Ah, Richard, il a cette théorie où c'est dans un livre que tu avais lu ça. Tu te promènes dans ta voiture, dans n'importe quelle rue, tu regardes par la fenêtre, chaque fenêtre, c'est une histoire.
Ouais.
Oui.
Chaque fenêtre, c'est un drame.
Ouais.
Chaque fenêtre, c'est des gens merveilleux ou des gens terribles.
Jean-Luc Godard, j'ai l'air crissement péteux là, en disant ça. Jean-Luc Godard faisait ça dans ses films. Il filmait des gens dans un restaurant qui parlaient. Et là, sa caméra partait. Et là, suivait une femme dans la rue. Puis là, il revenait.
Ouais.
Mais là, ce qu'il voulait dire, c'est que bon, je m'intéresse à ces gens-là. Mais je pourrais m'intéresser à la femme dans la rue.
Ouais.
Ce serait une autre histoire.
Ouais.
Je comprends que ce serait une autre histoire. Mais là, je reviens à mon histoire principale. Mais c'est ça qu'il disait.
Ouais.
C'est comme, n'importe quelle personne, tu vas dans un café, c'est toutes des histoires.
Ouais. Hein? J'adore être en voyage, puis je m'assois dans le train avec une madame, un monsieur, une grand-maman, là. Puis je vais, moi qui est assez discrète, là, je peux y raconter des affaires. Là, tu te dis que je ne reverrai plus jamais cette personne-là.
C'est sûr.
Là, tu dis tout, là, tu sais, où la personne te raconte sa vie, tu es comme waouh! Tu as des échanges qui peuvent prendre du temps à avoir avec des gens ici. Ouais. Mais là, en voyage, c'est comme, ben, on n'a rien à perdre, puis on va même pas se juger parce que de toute façon, on se connaît pas, puis on s'en verra plus
jamais.
Jamais,
jamais. Mais si tu avais un chum dans ta vie, tu t'installerais dans le train ou dans l'autobus ou dans l'avion et tu parlerais avec ton chum et tu rencontrerais pas la vieille madame,
ben c'est
le
sûr.
Jeune homme avec son sac à dos.
Voyager tout
ça, j'adore
seul.
Voyager.
Ben, voyager seul, c'est là que tu... Moi qui est gêné, là, moi, voyager seul, je rencontre des gens.
Ben
voyager
oui.
avec une personne, ça me prend un qui, elle, communique avec les autres puis là, finalement, on connaît du monde. Mais sinon, à deux, là,
moi,
ça...
Moi, je suis un mauvais célibataire. Là. J'aime pas ça être seul.
Non?
Ah non, je me souviens
j'aime
que t'as déjà dit je sais pas si tu l'as écrit ou si tu l'as dit, mais que tu as besoin d'exister dans les yeux d'une femme.
Oui.
Et que tu te trouves pas intéressante tout seul.
Elle est hallucinante.
Ben oui, elle te connaît mieux que moi. Mais je me souviens que tu racontes à ton sujet.
Que sinon, tu te trouves pas si intéressante ou que tu trouves pas ta vie si intéressante que tu as besoin d'exister dans le regard d'une femme.
Mais t'es vraiment weird, toi.
C'est sûr que c'est
ça. Non, mais j'ai une mémoire. J'ai une mémoire. Je me souviens de toutes les paroles de chansons, puis de des dates.
Mais c'est vrai, j'étais un mauvais célibataire. J'aime pas ça vivre.
C'est sûr qu'en couple, c'est le fun d'avoir quelqu'un que tu peux appeler n'importe quel moment de la journée, raconter tes affaires. Ça, c'est peut-être la partie moi qui me manque ou quand je fais mes tours seuls dans le temps de Noël puis d'être seul en train de les faire, je trouve ça moins drôle. Là. Mais c'est vrai que ça, c'est
pour
vrai,
faire la tourtière, tu trouves ça plate parce que tu ne viens pas de la recette? Ou
Non, mais je trouve ça plate parce que c'est de familial. Moi, ce que je m'ennuie, c'est du côté famille. C'est de ça que je m'ennuie.
Mais Richard est très particulier parce que Richard, il est comme moi. Moi, je suis incapable. Moi, j'ai été très peu célibataire dans ma vie. J'ai toujours été en couple. J'aime être en couple. J'aime particulièrement être en couple avec Richard. Mais ce qu'on aime tous les deux, puis je vais me permettre de rendre hommage, c'est que Richard et moi, je considère qu'on n'est pas un couple, on est une équipe. Et moi, si j'étais pas avec Richard, je me sentirais toute seule parce qu'on est plus qu'un couple. Tu sais, c'est 1 plus 1 égale pas 2, 1 plus 1 égale 3.
Ouais.
On est, tu sais, je veux dire, dans notre travail, on est très liés.
Moi, c'est ce que j'étais au sein de couple. C'est ce que ça prend aussi, je pense. Pas nécessairement que tu te déteins sur l'autre, mais tu sais, c'est comme une entité de quelque chose.
Et j'abordais quelque chose tantôt, puis la discussion a viré, mais...
Tu voulais y parler
De se retrouver dans les journaux, la séparation, blablabla, t'as trouvé ça...
Moi, j'ai toujours dit, si tu invites des journalistes à ton mariage, ça se pourrait que t'en aies à ton divorce. Yeah. Puis si tu mises ta carrière sur ta famille... que tu montes tes enfants, faut que tu aies quand même de dealer avec. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Je te dis pas que ça a été facile des deux bords, de dealer avec ça, mais tu peux pas disparaître puis dire le public, je veux pas parler. C'est des deux sens.
Autre question.
Ouais.
Geneviève.
Ouais.
Ta mère, on l'a croisée quelques reprises.
Ouais.
Elle est magnifique.
Ah ouais.
C'est une femme tellement belle. Et... Ouais.
Élégante,
et comme jeune fille, de voir ta mère, qui est une belle femme, c'est comment? Est-ce que tu dis, il faut que je sois à cette hauteur-là?
Tu vois, ma mère,
faut que je la dépasse.
Oui, c'est ça. Mais
ma mère, quand elle travaillait comme mannequin, elle me traînait avec elle partout, tu sais, fait que dans les studios de photos, les défilés de mode, tout ça, ma mère, elle a défilé, était enceinte de moi, tu sais. Ouais, je suis très drôle. Presque née sur un runway, moi, là, tu sais. Puis, elle m'amenait dans ses séances de photos. Puis, j'en ai fait quand j'étais petite, là, tu sais, des petites publicités, là, quand j'étais toute petite, 5-6 ans. Ce qui fait que ça a toujours fait partie de ma vie. Fait qu'à l'adolescence, j'ai fait beaucoup de trucs de mode. Puis, ma mère venait voir mes défilés de mode quand j'avais 15 ans, 16 ans. Ah ouais, elle était toujours là. Fait que... Et donc, ma mère, elle comprenait que si je revenais avec le un côté tête rasée puis du rose dans les cheveux, elle comprenait que c'était la mode ou que c'était une mode, tu sais.
La mode de l'époque.
Oui. Puis c'est fait que ça la dérangeait pas, tu sais. Elle était super open parce qu'elle a porté des choses tellement extravagantes là, tu sais, comme mannequin.
Avoir des enfants, c'est...
On fait ce qu'on peut.
En fait, quand t'en as pas non plus, ça te manque pas.
Ah oui?
Ouais.
C'est comme toute autre chose.
Mais je m'excuse, il n'y a pas rien des bons côtés d'avoir des enfants.
Non.
Désolée, là.
Non, mais tout à l'heure, Geneviève, tu disais avoir un chum, c'est avoir un fil à la patte. Avoir un enfant, c'est avoir quatre fils à la patte.
Non, mais attends, là, tu sais, j'ai quand même. J'ai quand même été amoureuse, puis j'ai eu des belles relations amoureuses, puis tu sais.
Est-ce qu'à cette époque-là, t'aurais pensé des fois d'avoir des enfants?
Ouais. Ça m'est arrivé Ouais. Mais tu sais, il y a des filles qui, dès l'âge de 20 ans, là, ils ont l'appel, tu sais, c'est l'horloge biologique. Oui, c'est ça, tu sais. Moi, c'était plus inspiré parfois par mon amoureux, tu sais, ce désir-là de... Ça m'est déjà passé par la tête, mais non, j'ai pas fait ça.
Parce que moi, 52 ans,
ouais,
je pourrais en avoir encore.
Ah ouais?
Ouais.
T'aimes ça?
Si j'avais une garantie que la femme avec qui je vais avoir l'enfant, je reste avec jusqu'à la fin de mes jours.
Mais on ne sait pas cette garantie-là, Jean.
Ah ouais, mais elle n'existe pas.
T'en aurais d'autres.
Ouais.
Ben non, mais elle peut exister, cette
Moi, je m'ennuie du petit bébé d'être né dans mon bébé.
Ah, c'est tellement cute!
Je m'ennuie de tout. Moi, j'ai aimé tous les âges. Tu sais, là, sont rendus à 12 et 10 ans.
Changer des couches, c'est tellement fun. Ouais. Ça sent tellement bon.
C'est cool.
Quand
c'est
il
cool.
crie la nuit, c'est tellement
pas dormir
fun.
Pendant non, deux ans, c'est tellement extraordinaire.
Toi, t'aimes les petits bébés.
Ah, ouais. Moi aussi!
Oh, j'adore les petits bébés. Ben, j'adore tous les anges. Mais comme là, ma petite, elle a 10 ans, la plus jeune, là. C'est une petite grotte, un petit soleil. À 12 ans, là, ça commence à être un petit peu plus jeune. L'aime autant, là, mais à 12 ans, tu commences à se reculer un peu plus. Là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Mm. Mais celle de 10 ans, je la vois, je dis, oh, va-t'en pas à 12, tu te restes à 10.
Oh!
Mais à tous les anges, c'est le fun.
Ouais.
Mais moi, j'ai un papa qui aime. C'est un peu géo. Fait que j'aime ça aller à Disney. J'aime ça aller dans les glissades d'eau. J'aime ça aller faire du ski. J'aime ça aller faire des glissades sur tube l'hiver. Toutes les activités, j'aime ça. Mm. Avec mes enfants, je suis bien de faire ça. Mm.
C'est tout à fait nous.
Non!
Mais j'aime ça. J'adore, tu sais, comme ma soeur a deux enfants. Elle a deux petites filles, tu sais, puis j'ai des amis qui ont des enfants, puis tout ça. Puis, tu sais, comme il y en a une la semaine passée, la petite Margot, la fille de mon amie Judith, est venue à la maison. Puis là, j'ai fait découvrir plein de tunes des Beatles. Oh, puis ben j'ai donné un T-shirt de McCartney. Mm. Puis là, j'ai appris plein d'affaires. Puis tout, là, tu sais, c'est comme un petit school of rock, là. Tu sais, elle vient chez moi, là. Elle vient chez moi, là, puis elle tripe sur les Beatles. Fait que là, je fais découvrir plein de tunes, puis on parle des Beatles, là, tu sais. Puis, tu sais, avec mes nièces, ça
Ta
va être autre chose.
Ta transmission, c'est là, là.
Oui, je l'avais.
Non, mais là, c'est qu'en plus, tu peux le faire en disant j'ai rencontré à plusieurs reprises Paul McCartney et tout, là.
Ouais.
Tu sais, parce qu'il doit y avoir plein de ma tante qui aiment les Beatles, mais elles sont incapables de dire qu'elles ont interviewé Paul McCartney.
Ah, pourquoi t'as pas rencontré Ringo Starr? Ben. Tu bois comme du sang de jeune vierge, finalement.
Ben oui, tu vieillis pas.
Ben
non, c'est pas
non,
juste.
Mais tu
ça.
Vieillis absolument.
J'ai arrêté de boire.
Essaye ça, Richard, tu vas rajeunir de 10 ans.
Quel âge t'as, toi?
52.
Il vient de le dire, 52.
Tu sais, les deux, là. Les deux, vous n'avez pas des prospects? Vous n'avez pas aucun prospect? Vous n'avez rien?
Ben oui.
Les deux célibataires.
J'aime bien, mais fait semblant qu'elle ne comprend pas ce que tu veux dire.
Moi, j'ai jamais dit ça. J'ai déjà dit ça.
Vous êtes les deux. OK, vous sortez ensemble.
Vous êtes sur le marché.
Ah, vous sortez ensemble.
Non.
Ah, oh, c'est ça, c'est un souper matchmaking, c'est ça.
Elle ne m'a même pas traversé l'idée.
C'est ça
même
le concept.
Ah, c'est ça. Mais non, c'est ça, je fais de la raquette et du patin.
T'as pas ça la question?
puis ça me sauve de détester l'hiver. Ça m'empêche de détester l'hiver parce que sinon...
C'est que j'ai...
Ouais, je suis tellement frileuse.
C'est gros, ça.
Full sport d'hiver.
Avec mon Kentucky d'aujourd'hui.
Non, mais toi, tu bois du thé puis toi, tu manges du poulet frit Kentucky.
Ouais.
Non, je pouvais pas. T'en as mangé ce midi, là.
Ouais.
Attends, t'es allé comme quoi, un truc à l'auto, t'es rentré dans la place.
J'ai mangé une poutine avec...
De poulet frit Kentucky, ils font de la poutine.
Ouais, avec trois languettes de poulet. C'était bon.
Sur la poutine?
Non, panée. non, à part.
Panée.
C'était bon.
Des languettes panées?
Ouais.
C'était bonne.
Mais...
C'est la recette secrète.
Mais t'es comme pas gros?
Non, mais je fais du sport. Mais moi, j'ai une génétique.
Ah, mais ça, c'est pas juste.
Ça veut pas dire dans la vie que t'es pas gros, que t'es plus en santé que quelqu'un qui est gros non plus. Il faut toujours penser à ça. Mais je pense que j'ai une génétique, mais moi, je fais tout le temps comme Okay, un peu ça, mais c'est une question d'équilibre.
Mais tu dis, mettons, là, t'es en auto, là. Mais tu dis, faut pas que j'aille là, faut pas que j'aille là. Ah oh, non, je veux pas. Ah, oh, fuck, j'y vais.
Non, mais j'ai regardé moi, c'est que je voyais.
Non, mais y a-tu comme un débat dans toi, là, en disant,
non.
Faut pas que j'aille, faut pas que j'aille. Ah, oh, fuck, j'y vais.
Non, non,
là.
Moi, je m'assume.
Non, mais la regarder pour s'assurer que personne
ne regardait. T'es allé, t'es allé.
Je m'assume parce que je me suis dit, bon, aujourd'hui, je mange ça. Hier, j'ai quand même mangé une poutine chez McDo. Fait que je suis correct. Je peux pas. Hein. Ah, non, mais moi, j'avais eu gros morbide. J'aurais pu être gros morbide. Ah ouais, ah ouais? Parce que je mange tellement.
Ce serait empiffré, tu serais resté dans une pièce entourée de tes buckets.
Peut-être que j'aurais changé d'idée à ce temps-là, là, mais là, je fais du vélo de route, je fais du vélo de montagne, je fais du ski de fond, je fais du ski alpin, je joue au tennis, mais je suis zéro sportif.
OK, mais tout ça, ça te fait chier. Tu fais ça rien pour pouvoir manger de la marde.
Moi, je fais ça pour garder un peu ma shape.
OK.
Mais en même temps, je fais ça pour le bénéfice que ça donne après que c'est fait. Parce qu'après, tu te sens bien.
Tu sais, comme la dernière chose que j'ai envie de faire, moi, c'est d'aller au gym. J'ai horreur d'aller au gym. Mais aller patiner, c'est le fun. Aller faire de la raquette, c'est le fun. Du ski de fond, c'est le fun. Faut que ce soit amusant.
Non, mais toi, tu es hallucinante.
Donc, tu vois.
Toi, t'es vraiment, t'es peurante, là. Toi, t'as absolument pas pris 2 mois depuis que je te connais. Non, mais t'as absolument pas vieilli, là.
C'est la même chose que quand t'étais.
Fais-tu du yoga?
DJ.
Toi, t'es freak, là. C'est vraiment, là.
Moi, j'ai commencé à yoga show aussi.
T'es un autre.
Extraterrestre.
Une extraterrestre. T'as pas vieilli, pantoute.
De un, t'as pas vieilli. Et de deux, on ne sent pas que t'as essayé de te rajeunir avec des moyens.
Ah, j'espère.
C'est la croix. Mais ce corps-là, sans aucun exercice. Non, mais vraiment.
C'est
incroyable.
C'est la génétique.
C'est la génétique. J'ai eu ce corps-là sans aucun exercice. Rien, là. Un corps d'Adonis.
Je me dis comment t'es chanceux, toi.
Plutôt un corps de chez Adonis.
Ouais, c'est ça.
Un corps de chez Adonis.
Là, je pense encore une image quand t'as acheté tes bobettes Carpentine avec ta boîte que tu penses encore que c'est ton corps. Ouais,
c'est ça.
C'est ça.
Merci beaucoup.
Hey, merci.
C'était le fun.
Et c'est la première fois que je trinque avec du thé vert.
Avec une
petite tasse de thé.
Pauvre.
Moi, j'ai toujours dit
qu'il
y avait deux couleurs, le blanc
et
le rouge, mais là, maintenant, on a introduit le vert.
Ça avait une belle petite tasse.
Ouais, vraiment.
Merci.
Merci de votre accueil. Merci de la belle invitation. C'est le temps de jaser.
Vous avez écouté le balado « Devine qui vient souper » avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Prise de son... Gabriel Meunier. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguet. Co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.